Alors, on vient de faire nos prédictions pour le Super Bowl et la saison de football. Un qui en fait des prédictions souvent et sa moyenne est assez impressionnante. David Etegui est avec nous. David, comment ça va?
Ça va bien, et toi, Stéphane?
Oh, très bien, David. Merci.
Super.
On est content de te parler, David. On est content.
Ben ouais. Hey,
toi, salut, David, George, comment ça va, George?
C'est quoi tes prédictions, David, rapidement, Super Bowl final?
Les Rams, David, les Rams, hein?
Les Rams. Les Rams contre les Seahawks, OK, George? Mais ça va mal si on est en même division.
Les Rams, ouais,
non,
les Rams contre les Seahawks
c'est quoi ton
en éliminatoire.
C'est ton gagnant?
Excuse-moi, j'ai pas entendu ça couper, George. Je t'ai dit quoi?
Ton finaliste du Super Bowl puis gagnant, rapidement.
Ben moi, je pense que Kansas City est toujours là, à mon avis. C'est toujours une équipe favorite. Je pense que moi, je les aime beaucoup. Et je pense que Kansas City, puis je vais aller pour mes Rams. De toute façon, j'y vais jusqu'au bout, moi.
Bravo, David.
J'y vais jusqu'au bout.
Les Rams, stop. Ouais. On va rester avec le hockey avec toi d'abord. David, pour commencer,
comme
ton impression du contrat de Draisaitl?
Ben d'abord, félicitations à son agent Andy Scott. OK. Super contrat. 112 millions, 8 ans, 14 millions par année. J'analyse un peu ce contrat-là, puis je me dis, il signe ça à 29 ans, il va terminer UFA à 37 ans, il sort d'une saison de 106 points, 14 millions par année, no move clause. Je pense que c'est une signature, solide pour le joueur, pour l'équipe aussi, pour s'assurer d'avoir ce joueur-là pendant longtemps, sauf que on a mis tous les moyens derrière ça, puis je pense que Draisaitl est sorti gagnant. En tout cas, il y a eu quelque chose de super intéressant dans ce contrat-là, George.
On en parle depuis le début de la semaine, David, publiquement. Tu le sais, Connor. Et on a dit Connor, Léon et Evan Bouchard. Bon, c'était dit, on va toucher moins d'argent pour rester ensemble. Penses-tu, puis Léon l'a dit aussi, s'il s'en va sur le marché, est-ce qu'il touche plus? Est-ce qu'il devient en fait une simili-aubaine, entre guillemets, pour l'équipe à 14 millions ou tu t'attendais à ce qu'il y ait moins?
Mais pas du tout, Stéphane, c'est pas du tout une aubaine, mais alors pas du tout. C'est vraiment pas une aubaine, là. Puis je vais vous dire quelque chose, il aurait mieux fait de se taire au lieu de dire ça aux joueurs. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment dit aux joueurs dans la chambre, mais s'ils ont dit ça aux joueurs, puis par la suite, il a été signé un contrat comme ça, c'est vraiment... Il y a une perte de crédibilité à l'intérieur même du vestiaire. Il faut comprendre une affaire. C'est une chose que toi... Tu gagnes 14 millions, tu demandes de, tu t'en prends 9 ou t'en prends 10. Exemple, Sidney Crosby qui a signé à 8,7 pendant les meilleures années de sa carrière, alors qu'il aurait pu avoir 12, 13, 14, 15, peu importe. Lui, il a donné une aubaine à son équipe. Lorsqu'on regarde ça, on se dit, ben là, c'est pas du tout la même affaire. Et là, tu demandes à un joueur de deuxième, troisième trio, quatrième trio, un défenseur qui a 4 ans ou 5 ans. Pour sauver de l'argent pour le restant de ses jours, on lui demande de coupe ton argent et moi je vais aller chercher 14 millions. La réalité, c'est pas un bargain, puis je vais te le dire pourquoi, Stéphane. Un bargain, là, McKinnon, là, entre vous et moi, il signe son contrat à l'âge de 28 ans l'année dernière, 12,6 millions pour 8 ans. Matthews, il signe l'année dernière, ça commence cette année, là, 13,25 millions. Est-ce que vous allez me dire, à l'âge de 27 ans, est-ce que vous allez me dire que 14 millions à l'âge de 29 ans, ça vaut mieux un Draisaitl qu'un McKinnon ou qu'un Matthews? La réponse, c'est non.
Ah, c'est
et
une
si
bonne
vous
question.
Me dites oui, puis si vous me dites oui, il est aussi bon, il n'y a pas de problème. Mais alors, à ce moment-là, 14 millions, c'est certainement pas un bargain quand eux sont à 12 et à 13.
Mais je te pose une question rapide, David, puis j'imagine que ça a été ça aussi dans les négociations de la manière que ça a été dans le back and forth. En raison du plafond maintenant et des données qu'on a avec le contrat entre juste en 25-26, j'imagine qu'avec le pourcentage de la masse salariale, on s'est dit, ben écoute, avec l'inflation et la tu sais, ça monte de 12,5 à 13,5 à 14 millions. Je pense que c'est 15% là, sur la masse.
C'est une augmentation de 5%, 4,5 millions qui est anticipée par année.
Exact.
C'est ça, dans les trois prochaines saisons. Donc 4,5 millions, d'exemple, le salaire de 12,6 millions de McKinnon, ben là, on parle d'à peu près un autre 1,5 million, 2 millions maximum. On est dans le 14.
Exact.
Donc, et là, on parle de McKinnon versus Draisaitl. Moi, je prends McKinnon avant Draisaitl.
Moi aussi.
OK? Sauf que, disons que, joueur pour joueur, c'est le même, à 14 millions, c'est le même contrat. Donc, il n'y a pas fait de bargain. Il a poussé au maximum. Il a été signé. Il a été chercher des contrats à coût de 15 millions de bonus par année. Il a été cherché tout près de 54% de son salaire dans les premières saisons. Il n'a pas fait de passe droit à Edmonton. Il n'aura pas fait de faveur, ça c'est certain.
Là, David, quand tu vois tout ça, combien tu penses que Bouchard et McDavid vont demander? Puis est-ce que tu penses qu'avec Nurse puis tous ces contrats-là, un modèle qui ressemble un peu à celui des Maple Leafs, les Oilers vont toujours être capables de gagner?
Genre, ça va être la même chose. Ça va être peut-être même pire que Toronto. Ça peut pas marcher, Georges. Et la raison, elle est simple. McDavid va signer dans à peu près 2 ans. Il est à 12,5. Il va signer possiblement, à mon avis, entre 17 et 18 millions par année, avec la faveur qu'il fait, comme ils disent aux Oilers. OK? À 17,5, 18 millions, c'est 140 millions. Bouchard, les amis, lui, il y a un agent. Il va dire, son agent va dire, Darling, il a 59 points, il fait 11 millions. Fox, il fait 73 points, il est à 9,5 millions. Toi, t'es le quatrième meilleur de la Ligue à 82 points. Combien est-ce que tu vas demander si Darling a 59 points, il demande 11 millions, ou Fox à 9,5? C'est 10 millions. Ça peut pas être en bas de ça. Ça peut même être 11 millions comme Darling. C'est qu'à 10 millions, 9,5, 10, tu prends ce joueur-là, tu prends McDavid, tu prends Bouchard, tu prends le 14 millions, tu rajoutes Darnell Nurse à 9,25 millions. Écoutez bien ça, les amis. Vous arrivez avec 4 joueurs à une masse salariale de 50 millions de dollars.
Ouais, c'est fou.
Dans 2 ans, sur une masse anticipée de 97,5 dans le meilleur des scénarios. Donc le cap qui est à 88 devrait être à 97,5. 50 millions, 4 joueurs, prennent 51% du cap. Il te reste exactement 37,5 millions pour signer 19 joueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1,9 millions par joueur dans l'équipe quand on sait que la moyenne actuelle dans la Ligue nationale, c'est 3,2 millions par joueur dans une équipe. Donc si tu fais un calcul de 19 joueurs au salaire moyen, c'est 67 millions. Donc ils sont dans un trou de 20 millions. Alors là, tu vas dire, ben 20 millions, qu'est-ce qu'on fait? Donner, il faut le mettre à la poubelle, il faut faire quelque chose, il faut que quelqu'un le prenne. Je vais donner mes premiers choix que quelqu'un le fait.
Ils n'ont pas le choix.
Mais j'ai encore un autre 10 millions que je n'ai pas, qu'il faut que je trouve pour arriver à l'intérieur de ça. Et en plus de ça, il faut que j'espère de garder mes deux gardiens comme Skinner à l'heure actuelle à 2 millions, mes deux gardiens à 3,5 millions. Il faut qu'ils espèrent avoir deux autres gardiens qui sont toujours à 4 millions. Les deux, là, 2 millions chaque. C'est presque impossible. Donc, automatiquement, ça s'en va dans un mur, cette affaire-là. Mais lorsqu'on approfondit la réalité, le cap, il en reste 900 000 de cap Edmonton avec un seul joueur à signer. Quand on anticipe les deux prochaines années, on a compris qu'ils veulent gagner dans les deux prochaines saisons. Ils ont joué le tout pour le tout cette année et l'année prochaine. Après ça, c'est le déluge.
Ouais, t'as raison, parce que Skinner est signé aussi, puis mettre ça à ses comptes également, fait que c'est dans les deux prochaines saisons pour les Oilers d'Edmonton. David, très curieux de t'entendre sur le contrat de Seth Jarvis avec ce montant à différer, Eric Tulowski qui débarque comme nouveau DG, et c'est quelque chose qui était possible depuis le début là, de cette convention collective, mais qui n'était pas exploité en Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu penses que ça peut devenir une mode, puis en tant qu'agent, ça a été quoi ta réaction quand t'as vu ce montant à différer présent dans le contrat de Seth Jarvis?
Non, mais je pense que Seth Jarvis, pour lui-même, il a signé un excellent contrat. Parce que je pense pas que les gens ont vu un peu l'exercice. Mais l'exercice final, c'est combien il reste dans sa poche. Moi, ce qui reste au niveau du cap hit, la manière que l'argent est divisé par saison selon le cap de l'équipe, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que Seth Jarvis, dans les 3 prochaines saisons, va toucher plus de 50% de son salaire en 3 ans. Donc, il va se retrouver à toucher tout près de 30 millions des 59,36. Sur une période des trois premières années. Donc, lui, il se garantit. Il n'y a rien qu'un salaire de base de 2 millions. 6 millions la deuxième, 4,2 la troisième. Et il y a des bonus de 9 millions, 5 millions, 4 millions. Donc, automatiquement, lui, il vient de se garantir financièrement. Après ça, si dans le futur, ça va mal dans sa carrière, il y a son cash. L'agence a été payée. Et l'équipe a été capable de mettre ça selon les besoins financiers de l'équipe. Sur une période de 8 ans. Où il y a des années où il n'y a pas de bonification, d'autres où il y en a beaucoup plus et un peu moins. Donc, en bout de ligne, on fait marcher ça pour tout le monde. Mais certainement que lui, Seth Jarvis, il a signé ce contrat-là en 5-5. Il devait être super content de signer ça parce qu'il vient de garantir le futur de sa famille pour les 30 prochaines années, si ce n'est pas plus.
David, très intéressant David, pour Seth Jarvis. Curieux de voir s'il y en a d'autres qui vont emboîter le pas avec ces contrats en différé et pouvoir aider les équipes à faire de la gymnastique.
Toi, David, t'es un agent. Est-ce que t'encourages tes joueurs à aider les équipes comme ça ou pour toi, un agent, t'es mieux qu'il écoute l'agent.
Georges, il n'a pas aidé l'équipe. Il va encaisser 30 millions dans les trois prochaines années, ce jeune-là.
Oui, non, je comprends, David, mais je parle au niveau du montant sur le plafond salarial. C'est là où on diffère un 400 000 par année pour pouvoir donner plus. Mais je comprends aussi.
Je comprends, mais lui, l'important, à la fin de la journée, on travaille tous au Québec, dans le monde. À la fin, c'est combien est-ce qu'il me reste dans les poches à la fin du mois?
Ah, ben oui, lui, écoute, il n'y en a pas de problème. Ouais.
Puis lui, il n'y en a pas de problème. Dans les trois prochaines années, il n'y en a vraiment pas de problème. Donc, ils feront ce qu'ils voudront. Lui, il va les laisser, il va pouvoir accommoder l'équipe comme ils veulent, avec ce qu'ils ont fait exactement de la manière qu'ils l'ont fait. Et lui, il est très bien à l'intérieur de tout ça.
David, pour le Canadien, Mayu Hudson sont au camp d'orientation des Requins à Washington. Selon toi, lequel des deux va jouer le plus de matchs cette année?
Ça va être Hudson à cause de Barron. Et quand on parle de la question entre Mayu et Hudson, ça va être Hudson. Hudson, il joue à la gauche, il est un expert du power play. C'est un gars qui a un talent unique. Il amène une dimension qu'aucun autre défenseur y a à l'heure actuelle chez le Canadien. On parle de Mayu, puis je suis un des fans de Mayu depuis des années. Mayu, c'est un grand gars, il est capable de tout faire. Il est capable de jouer à la pointe au power play, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais on a un Barron qui est signé, qui ne peut pas retourner en arrière, qu'on peut perdre si on le rétrograde. Ça nous crée un problème. Donc ça fait en sorte qu'il va falloir possiblement que Mayu, il va falloir qu'il dispute un peu plus pour faire sa place, je pense, du côté droit, parce qu'on va certainement bouger Goulet du côté droit pour possiblement jouer avec Matheson si on veut Hudson avec Savard. Et je pense qu'il va avoir une espèce de rotation entre Jacky, Mayu, Barron et Struble. C'est un peu comme ça que je vois la saison entière des Canadiens. Et je vois Hudson, s'il est capable de rester en santé et capable de pas coûter trop défensivement à l'équipe, je pense que je peux le voir jouer une 70 matchs cette saison. Et je pense que possiblement Mayu, ça pourrait être peut-être une trentaine dans le meilleur des scénarios. Ça, c'est s'il commence la saison à Montréal.
David, de parler des défenseurs, on en a parlé avec Georges plutôt à l'émission également. Je pense que c'est Jean-François Chaumont qui faisait un texte sur le LNH.com là-dessus aussi, avec le surplus de défenseurs du Canadien de Montréal. Harris est parti, oui. Kovacevic est parti. Il y a encore un trop-plein, tu sais, avec les jeunes qui débarquent. Si le Canadien a à faire un choix entre Struble et Jacky, lequel tu penses qu'il va échanger et pourquoi?
Si on pense que Jacky est en santé, c'est 1 000 000 % de Jacky qu'on garde. On ne peut pas garder Struble sur Jacky. Jacky, c'est une unicorne. Jacky, c'est un des trois plus grands tops de toute la ligue, des gars les plus... Les gars ont peur de lui. Dans la ligue, ça se parle. C'est un des gars les plus toughs. 6 pieds 4, 240 livres. Je suis fan de Struble depuis son repêchage. Il y avait un combine incroyable. Mais 6 pieds 200 livres, il joue fort. Il joue gros, mais il n'est pas gros. L'autre, tu parles d'un 6 pieds 4, 240 livres, qui est capable de faire la loi. Si les Canadiens n'ont pas de Jacky, ils vont être obligés de trouver un Jacky. Donc ça, ils n'ont pas le choix. Deuxièmement, offensivement aussi, je dois donner une longueur d'avance à Jacky. Il est meilleur offensivement que Struble, légèrement. Il a un meilleur potentiel offensif, à mon avis, que Struble. Donc il est meilleur offensivement, il est plus gros, il est plus fort, il est plus intimidant. Quand l'équipe adverse fait son plan, là, ils disent pas, ben, vous allez checker Struble ce soir. Mais ils parlent de Jacky, croyez-moi. Donc, en réalité, lui, ils ont besoin de garder. À moins que Jacky est fragile, se blesse régulièrement, là, à ce moment-là, on peut peut-être penser à ça, à passer un Struble devant lui. Mais sinon, pour moi, Jacky en santé, ça doit faire partie des Canadiens pour les 10 prochaines saisons. Et il doit faire partie des équipes qui gagnent la Coupe Stanley à Montréal.
Là, David, je sais que moi, plutôt, on voulait vraiment que le Canadien cherche Askarov, puis ça n'a pas marché, mais il était dans le mix. Mais là, Jacob Fowler, il reçoit des éloges de tout le monde. Carter Gauthier, Will Smith, ils disent que c'est le meilleur gardien avec qui ils ont joué. Ils disent comment il est incroyable. Est-ce que, quand tu regardes le Canadien de Montréal, puis avec les prédictions que tu as faites, tes prévisions que tu as faites par rapport au CH, David, est-ce que tu es à l'aise d'attendre l'arrivée de Fowler pour faire un duo avec Montembeau, ou tu penses qu'il faut que le Canadien aille chercher un gardien avant l'arrivée de Fowler?
Non, moi, je pense que non. Je suis à l'aise, Georges. Je veux dire, on a pris Askarov, ça met une personne, un gros talent de plus dans le mix. Mais j'ai confiance en Montembeau. Je pense que Montembeau, c'est pas nécessairement le meilleur, un des 5-6 meilleurs gardiens de la Ligue, peut-être même des 10. Mais si j'ai Montembeau en 15e, à peu près 15e meilleur gardien de la Ligue, il peut amener les Canadiens à n'importe quel niveau. Avec un gardien qui est quand même stable, on a vu plusieurs équipes remporter la Coupe Stanley avec des bons gardiens, non nécessairement des super étoiles. Donc, je pense que Montembeau, il rentre là-dedans. Puis je pense que cette année, il va nous montrer qu'il est capable de jouer à un niveau qui est, disons, 15e, 16e meilleur gardien de la Ligue. Et je pense que ça, c'est suffisant pour performer. Maintenant, Fowler, pour moi, c'est comme Askarov. Ça fait partie du futur de la Ligue nationale au niveau des gardiens de but. Et lui, le plan devrait être comme suit. Les trois prochaines années, cette année, c'est sa dernière dans la NCAA, il veut gagner le Frozen Four. Il va essayer pour ça. L'année prochaine, une année complète dans la Ligue américaine à Laval. Et là, il va falloir qu'il monte de niveau son talent, faire un peu un Patrick Roy ou un Carey Price de lui dans la Ligue américaine où ils avaient été jusqu'à la finale en remportant la Coupe Calder dans le temps, ou même s'il la gagne pas, mais au moins d'amener l'équipe loin. Et je le vois en 26-27, la première grosse année des Canadiens, arriver comme backup à Monty, à Montembeau, comme deuxième gardien. Et là, à partir que quand t'es là, puis t'es un jeune super vedette gardien de but, ça peut se passer rapidement que tu deviens le numéro un. Donc, je pense que lui, c'est trois années d'étape. Cette année, NCAA, AHL, Laval et ensuite dans Ligue nationale.
Alors, il va arriver à temps pour ta coupe cette année, le Canadien.
David. Oui, comme second, à mon avis, ou peut-être comme premier, si ça va mieux qu'on l'anticipe pour lui.
Et ça, c'est de la musique aux oreilles des partisans pour le Canadien de Montréal. Ouais. David, toujours un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette belle chronique et on se reparle la semaine prochaine.
Merci David. Bonne semaine, les amis. Merci, Georges. Au revoir.
David Etegui qui était avec nous.